Bonjour et bienvenue dans B2B Stories, le podcast de la communauté marketing et vente B2B. Je suis Mohamed Kodja et j'accueille ici des passionnés qui nous parlent sans filtre et sans compromis de leur métier et de l'actualité. Aujourd'hui, je vous propose une émission spéciale parrainée par les rencontres internationales du marketing et de la vente B2B. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast B2B Stories. Aujourd'hui, je vous propose une émission dédiée à la réussite de sa stratégie de contenu, en d'autres termes, comment utiliser les bons contenus et les bons outils pour valoriser et légitimer son expertise, produits et services. Pour cela, j'ai invité Laura Salin, cofondatrice et CEO de l'agence NoComment, spécialisée dans les stratégies social media pour les entreprises B2B, filiales d'AWE. À ses côtés, Cécile Daranès, qui est en charge, elle, de l'acquisition digitale chez Euler Hermès, assureur crédit, filiale du groupe Allianz. Et enfin, notre troisième invité est François Richewski, directeur EMEA pour Percolate, plateforme de content marketing, qui a rejoint récemment la société Seismic Software. Alors bonjour à tous les trois, je vous laisse peut-être apporter quelques précisions sur votre activité au quotidien avant de rentrer dans le vif du sujet.
Bonjour Mohamed.
Bonjour.
On va commencer peut-être par Laura, s'il vous plaît.
Oui, avec plaisir. Bah, écoute, tout d'abord, Mohamed, merci pour cette invitation sur ce sujet qui est passionnant. Très rapidement, l'agence hashtag NoComment est spécialisée, comme tu le disais, dans les stratégies social media, c'est-à-dire tout ce qui est stratégie de marketing sur les réseaux sociaux, donc quels que soient les réseaux sociaux, et spécialisée dans les activités des entreprises B2B. Et je suis également présidente de MyB2B Social Club, qui est un think and do tout aussi dédié aux problématiques marketing digital B2B.
Merci. Cécile ?
Oui, alors comme tu le disais, moi je suis en charge donc de l'acquisition digitale chez Euler Hermès. Donc Euler Hermès, on est une filiale en fait du groupe Allianz. Et notre mission, c'est de protéger nos clients en fait contre le risque d'impayés. Donc on est exclusivement B2B. Et aussi en France et dans le monde.
François Richewski, donc moi je suis en charge de gérer l'équipe commerciale chez Percolate. J'ai rejoint Percolate il y a un peu plus d'un an pour monter l'activité en France et en Europe du Sud. Percolate, c'est une plateforme de content marketing. On va le détailler un petit peu plus loin dans le podcast, mais ça permet de gérer, coordonner, orchestrer l'ensemble des contenus produits pour les diffuser sur les bons canaux.
Parfait. On va rester avec toi, François, et on va rentrer sans plus attendre dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire comment le content marketing a évolué ces dernières années ?
Ouais, je sais pas si on peut parler d'évolution. On peut certainement parler d'une nécessité d'aller plus loin dans l'automatisation des campagnes qui sont poussées sur des canaux et des canaux qui sont de plus en plus nombreux. Tu crées du contenu, tu le prépares pour l'envoyer par email, pour le publier sur ton site web, sur tes réseaux sociaux préférés, mais le plus de canaux tu as à ta disposition, le plus de contenu tu dois préparer, orchestrer, revoir et évaluer. Donc logiquement, pour permettre aux équipes marketing de rester focalisées sur ce qui apporte de la valeur, tu te dotes d'une plateforme de content marketing qui assume une large partie des tâches automatisables.
Laura ?
Pour compléter, puis pour notre vision aussi, c'est vrai que moi je trouve qu'il y a eu quand même une évolution. D'un côté, sur la façon dont les marketeurs abordent aussi leur stratégie de contenu, mais aussi de la façon dont les internautes et les prospects consomment eux-mêmes leur contenu. Donc, c'est-à-dire que dans la mesure où tout le monde a pris l'habitude de chercher de l'information un petit peu partout, donc sur les différents supports digitaux, mais même ailleurs, hein, on se rend compte que ce soit au niveau B2B ou B2C, tout le monde a envie et besoin de consommer du contenu et plus seulement du contenu de la marque. Donc, du coup, avec les réseaux sociaux, on a pris l'habitude de multiplier les sources d'informations avant chaque décision d'achat. Et dans le B2B encore plus, tout le monde sait que les marques produisent du contenu pour faire vendre. Et donc, les gens deviennent de plus en plus sceptiques et sélectifs par rapport au contenu qui est produit par les entreprises. Donc, ce qui a obligé finalement les marketeurs à devenir de plus en plus précis et de produire des contenus de plus en plus qualitatifs. Donc ça, on le ressent vraiment, moi, je trouve, au fur et à mesure des comptes LinkedIn ou sur les sites Internet.
Je me permets de te couper. Tu le ressens, toi, cette qualité qui est plus prononcée aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux en termes de contenu?
Je ressens vraiment qu'il y a une volonté de diversifier déjà le type de contenu. Et c'est vrai que on voit de plus en plus de contenus, effectivement, ce que j'appelle les contenus d'expertise. Donc ça va être des livres blancs, ça va être des webinars. Et ça, c'est vrai qu'on le voyait un petit peu moins avant, ou de façon de plus épisodique. Alors que là, puis notamment pendant cette crise sanitaire, on sent que ça s'est vraiment multiplié, que il y avait la volonté justement d'apporter du contenu d'experts un peu sur les différents canaux.
Quel est le poids, Laura, dis-moi, du content marketing aujourd'hui dans une stratégie digitale?
Alors, pour moi, effectivement, le content marketing, c'est devenu vraiment le pivot central de n'importe quelle stratégie digitale, parce que finalement, le contenu va alimenter l'ensemble des leviers digitaux, donc que ce soit au niveau des sites internet, alors des réseaux sociaux, bien entendu, mais aussi du mailing, lorsqu'on fait du marketing automation, encore plus prépondérant. Donc, nous, par exemple, au niveau de l'agence, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on fait intervenir le content manager sur l'ensemble des projets, même sur des projets du type SEA ou sur des projets de campagne sponsorisation simple, je veux dire. À l'époque, on capitalisait juste sur l'expertise métier de l'account manager Google AdWords, etc. Aujourd'hui, on vient mettre une surcouche sur la campagne stratégie pour être sûr qu'on a bien une cohérence dans l'ensemble des campagnes qu'on va mener, et aussi pour s'assurer qu'on connaît bien la cible et qu'on va bien répondre à ses besoins à tous les niveaux du dispositif.
Cécile, j'aimerais bien avoir ton avis du côté annonceur sur le poids du content marketing dans la stratégie digitale. Est-ce que tu as vu évoluer ces dernières années le content marketing? Est-ce que c'est un vrai levier d'acquisition, de fidélisation, de communication?
Oui, clairement. En fait, en tant que marketeur, c'est vrai que on vit cette transformation du marketing depuis plusieurs années maintenant. En fait, les mécaniques traditionnelles du marketing, qui étaient très orientées push, elles ont vraiment laissé la place effectivement à des stratégies qui sont aujourd'hui drivées par le content. Alors, pour répondre à ta question, effectivement, c'est clair que la quasi-totalité des investissements marketing et des leviers de marketing digital que moi aujourd'hui j'active dans mon activité, elles sont basées sur du content. Et c'est d'autant plus intéressant lorsqu'on est justement dans un business en fait de vente longue et sur des produits qui peuvent être complexes. En fait, le contenu, il nous permet en fait de nourrir cette relation très tôt avec nos prospects et en fait de leur apporter de la valeur tout au long de leur cheminement vers notre marque. Donc, c'est clair, c'est un allié de poids aujourd'hui, en tout cas dans nos stratégies d'acquisition digitale et de lead gen en général.
Et vous faites ça depuis combien de temps? Je veux dire par là, depuis combien d'années le content est-il devenu un vrai levier de communication, de génération lead?
Alors, nous, chez L'Hermès, on l'a vraiment mis en place en 2014-2015. Mais j'ai travaillé sur ces problématiques-là dans des structures précédentes aussi. Donc, je dirais, oui, on le voit depuis. Moi, en tout cas, je le vois depuis à peu près 2010, 2011, quoi.
Ouais. François, dis-moi, quelles sont les récentes tendances que toi, tu vois chez les directions marketing et les directions communication?
En termes de tendance, je vais dire que je vois deux approches. Une première approche qui serait l'approche marché et une seconde qui serait l'approche organisationnelle. D'un point de vue marché, ce qu'on constate, c'est que le content selling prend une place très importante. Content selling, c'est quelque part inscrire un parcours client dans une démarche plus forte de conversion. Donc, en guidant l'acheteur dans un funnel de vente, dans un tunnel de vente, ça prend en compte des enjeux, des habitudes de consommation. On a aussi la nécessité, le besoin de personnaliser beaucoup plus. C'est une tendance forte aujourd'hui. On affine le contenu, on personnalise selon des buyer personas, des profils, des cibles, pour renforcer l'impact des canaux et de la communication. En termes d'organisation, ensuite, je pense que la situation économique et sanitaire actuelle nous oblige tous à repenser notre manière d'engager avec nos cibles et aussi repenser notre manière de travailler plus globalement, de collaborer. C'est devenir plus digital qu'avant, c'est travailler à distance. Et la vraie question, c'est comment, quand on est une organisation très décentralisée, où 90%, 95% des personnes sont en télétravail, comment peut-on continuer à travailler sur une stratégie de contenu qui soit efficace et qui nécessite du partage, qui nécessite de l'alignement, qui nécessite de la coordination. Et c'est ça qu'une, entre autres, une plateforme de content marketing va permettre d'adresser comme enjeu.
Mmh. Tu confirmes ces tendances, toi, Laura ?
Ah oui, tout à fait. C'est vrai que surtout sur la tendance de personnalisation, c'est un constat que je fais aussi avec mes clients. C'est qu'aujourd'hui, on est de moins en moins vers la production d'un contenu générique qui pourrait servir à tout le monde. Et on est de plus en plus dans le choix d'une thématique qu'on va décliner sous l'angle d'une ou l'autre de nos cibles. Donc très souvent, par exemple, on se retrouve à nous travailler sur des livres blancs à destination d'une population spécifique qu'on déclinera ensuite sur une autre population, mais avec des arguments qui vont varier pour vraiment se sentir plus proche de la cible. Ce que je constate aussi sur la partie, on va dire, du fond, hein, c'est que les marques en général cherchent à avoir plus d'authenticité et plus de à créer plutôt une relation de proximité avec les cibles. Alors que avant c'était plutôt l'apanage du B2C. Mmh. Maintenant, même en B2B, on se rend compte qu'on a envie d'avoir cette relation de confiance, on a envie de se sentir proche. Et je trouve que ce qui a été assez révélateur, justement pendant le confinement, c'est que sur LinkedIn, on voyait beaucoup de photos de professionnels qui étaient en mode confiné, hein, bien sûr, dans des tenues décontractées avec leur casque de télétravail et qui rassuraient leurs clients et leurs prospects en disant qu'ils étaient disponibles, qu'ils étaient toujours là. Donc pour moi, c'est vraiment une façon, enfin, ça a été vraiment révélateur de cette volonté de vouloir faire tomber les barrières, de travailler sur la proximité avec les prospects.
Ouais, si je peux me permettre, l'authenticité, donc nouvelle valeur sûre du content marketing. Et avec l'authenticité, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas tricher.
Exactement. Et je pense que ça plaît dans les deux sens. Quoi. C'est, les marques ont envie d'aller dans ce sens-là et les prospects sont plus rassurés parce qu'on apparaît avec notre vrai visage.
C'est vrai. Cécile, tu es confiante toi aussi ces tendances au sein de ton département ?
Oui. Ça rejoint un petit peu d'ailleurs ce que Laura, tu disais sur l'authenticité. Moi, je vois une tendance qui nous vient aussi hein, du B2C, où les marques, en fait, depuis longtemps, elles capitalisent sur l'émotion dans leur contenu et dans la manière de construire la relation avec les consommateurs. Et depuis quelques temps, moi, je vois émerger aussi cette tendance, en fait, chez nous, en B2B. On nous recommande carrément de mettre de l'émotion dans nos contenus, de créer de l'émotion avec l'acheteur, un acheteur B2B. Alors, c'est un peu compliqué parce que on a quand même en fait tendance à penser que l'acheteur B2B, il est hyper rationnel, il fera jamais appel à son référentiel émotionnel dans ses décisions, surtout en plus d'achats pro. Mais en fait, pour ma part, je pense que c'est une piste intéressante à explorer parce qu'elle peut que alimenter et diversifier en fait l'approche qu'on a dans nos stratégies de content.
Et qui va fonctionner hein, si on se réfère toujours à cette recherche d'authenticité. Alors moi, il y a deux mots. Alors, on parle beaucoup de content marketing et de content strategy. Le content strategy, alors on va commencer par le content strategy, c'est quoi, Laura ?
Alors, c'est vrai que
la content strategy,
la content strategy, ouais. c'est les mots qu'on utilise de plus en plus. Et c'est vrai que suivant les personnes, on n'a pas la même définition. Donc, pour certaines personnes, on va parler de format, on va parler de levier. Pour d'autres encore, on va essayer de parler des thématiques, du rythme de diffusion, etc. Pour moi, la content stratégie, c'est un peu tout ça, en fait. C'est l'art de faire coïncider l'ensemble de tous ces éléments au regard d'une problématique donnée. Et quand on dit ça, ben, c'est vrai que le point de vigilance, c'est vraiment le fait de rester cohérent entre ce qu'on appelle le brand content, hein, donc le contenu qui va être propre à la marque pour travailler sur sa notoriété, le content selling dont parlait François tout à l'heure, mm-hmm. les contenus qui sont un peu plus awareness, donc un petit peu plus large sur le marché, qui sont importants aussi dans une content stratégie. Et donc la difficulté, ou plutôt l'enjeu, c'est de trouver la bonne tonalité dans la ventilation auprès de chacune des cibles. Et donc pour ça, à mon sens, le point qui va être très important, ben, c'est de bien connaître sa cible, hein, et alors pas seulement par le biais de la relation qu'elle a avec la marque, mais bien de connaître les enjeux de la cible au sens large. Le deuxième enjeu, ça va être aussi d'être capable de mesurer l'impact justement de chaque contenu, ce qui va permettre ensuite ben, de le retravailler et à chaque fois d'affiner un petit peu plus sa stratégie de contenu.
Et le content marketing, François ?
Le content marketing, c'est un mix en fait à la fois processus et technologie qui supporte une gestion bout en bout des campagnes qu'on souhaite lancer, des campagnes marketing qu'on souhaite lancer. C'est une orchestration du contenu selon les différents canaux qu'on aura choisis. C'est un processus de validation avant publication. C'est une capacité de gérer les règles en fonction des marques, en fonction des géographies, en fonction des langues. Et enfin, c'est une fois que tu l'as diffusé, c'est être en mesure de mesurer les résultats de tes campagnes.
Donc c'est encore plus d'efficacité dans le dispositif global de content, en fait, c'est ça?
C'est ça. Ouais, c'est mettre en place, encore une fois, pas simplement une offre logicielle, mais aussi un processus à mettre en place autour de la création même du contenu pour pouvoir à la fois le créer, mais ensuite le publier. Et le mesurer de manière très efficace.
Alors, il y a pas mal d'autres termes aussi qu'on entend. On entend parler de PIM, de DAM, de MRM. On s'y perd un peu. Tu peux un peu nous éclairer sur
On
tous
aime
ces
bien
acronymes?
les acronymes parce que ça fait super sérieux dans l'IT en termes de logiciel. Non, plus sérieusement, on trouve aujourd'hui beaucoup de technologies qui peuvent couvrir certaines attentes en matière de content marketing. Pas toute une vision bout en bout, comme je l'expliquais, du management des campagnes. On va parler PIM, par exemple. PIM, c'est Product Information Management. C'est une technologie logicielle qui sert à centraliser les informations vente et marketing, qui est plutôt orientée e-commerce. On va parler DAM, c'est le Digital Asset Management, gérer les actifs numériques, photos, vidéos, d'une entreprise pour les centraliser dans un référentiel unique. On va parler MRM, Marketing Resource Management. Ça se rapproche fortement du content marketing, avec une différence notable, c'est qu'on a plutôt affaire à une solution back-end, c'est-à-dire gestion des ressources, gestion des process, là où le content marketing aura une approche beaucoup plus opérationnelle, en relation directe avec les canaux de distribution du contenu. Donc au final, je pense que la plupart de ces technos peuvent créer un système d'information. La preuve, c'est que nous, chez Percolette, on a l'habitude de s'intégrer avec des solutions de DAM comme les solutions d'Adobe ou de Binder, par exemple. Qui sont assez monnaie courante sur le marché. C'est très complémentaire, c'est pas forcément contradictoire.
Ouais, je vois. On va poser la question à l'annonceur, à Cécile qui est avec nous. T'es pas un peu perdu, toi, Cécile, avec dans toutes ces
Ouais,
solutions?
ouais. Non, non, clairement. En fait, cette question, elle était nécessaire parce que c'est vrai que pour nous, hein, du côté annonceur, c'est vrai que le marché des technos hein, autour du content management, même du marketing automation et même au niveau des offres des agences autour du content, elle est parfois assez peu lisible et pour nous.
François, je vais continuer. Les avantages principaux aujourd'hui d'une plateforme de content marketing dont tu parlais à l'instant?
Les avantages, il y en a beaucoup, ils sont assez nombreux. Si on devait les résumer, je dirais que c'est un, apporter de la cohérence entre les équipes, entre les marques et la collaboration avec les agences externes. Deux, c'est réduire la production de contenu qui pourrait être réutilisé. On est face à une montagne de contenu au sein des directions marketing en fonction des marques, des géographies. Et on continue à produire alors même qu'on pourrait très certainement utiliser du contenu qui est déjà présent et qu'on pourrait tweaker un peu, customiser pour pouvoir le réutiliser sur d'autres canaux ou pour d'autres campagnes. Et donc, de facto, c'est aussi réduire les coûts parce que qui dit contenu dit coût associé à la production de ce contenu. Autre avantage aussi, je pense, c'est de permettre de focusser les équipes marketing sur la production et non pas sur la gestion du contenu. Donc, c'est finalement les remettre là où ces ressources ont une vraie valeur. Puis finalement, bout de chaîne, c'est permettre d'analyser la pertinence du contenu qui a été produit et qui a été diffusé.
Alors, on produit du contenu, pas pour faire beau, on produit du contenu dans une logique de ROI. Comment le contenu est-il à générer des leads, Laura?
Alors, effectivement, comme je disais au début de notre conversation, on sait bien qu'aujourd'hui, n'importe quel consommateur, que ce soit dans le cadre de sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle, il va d'abord chercher de l'information sur un sujet donné avant de rentrer en contact avec une entreprise. C'est d'autant plus vrai, je pense qu'on a tous entendu ces fameuses statistiques hein, que un acheteur B2B avait déjà réalisé plus de 65% de son processus de sa processus de décision d'achat avant d'accepter un rendez-vous avec un commercial. Donc, quand on dit ça, on se dit aussi que le contenu devient le point de départ finalement de n'importe quel dispositif de lead generation. parce que l'enjeu, hein, c'est de bien déterminer quel type de contenu on va fournir à son prospect en fonction de la maturité de son besoin, hein, et en fonction de son profil, de ses enjeux, comme on le disait tout à l'heure. Du coup, de notre côté, on utilise souvent la matrice qu'on appelle découverte, intérêt, décision pour essayer de schématiser un petit peu cette stratégie de contenu et travailler dans une démarche de nurturing, quel que soit le projet sur lequel on travaille. Donc souvent, on parle de nurturing quand on parle de marketing automation, et ça, c'est sûr, mais on peut aussi en parler sur les autres leviers, notamment donc sur les réseaux sociaux sur lesquels je travaille au quotidien. C'est vrai que c'est un travail qu'on réalise aussi dans les calendriers éditoriaux, c'est-à-dire qu'on essaie de déterminer à quel moment de son processus est le prospect pour lui apporter, pour aborder avec lui les sujets qui vont lui permettre à la fois de monter en compétence ou de trouver une solution à son besoin, mais aussi de continuer à avoir envie d'interagir avec la marque et de nouer une vraie relation.
Et le content marketing, dans tout ça, comment il renforce la conversion des leads, François?
Plusieurs manières, mais principalement en analysant le contenu qui est produit et qui est diffusé, ainsi que son impact sur un cycle de vente. Le content marketing aide à mieux cibler son auditoire et également à anticiper un acte d'achat. Je vais prendre un exemple. Le sales enablement de Sismic, qui est la société mère de Percolate, donc fournit une plateforme de sales enablement pour accompagner les commerciaux. Cette plateforme permet de savoir, entre autres, si un contenu a été ouvert, a été lu, combien de temps. Et la technologie avancée permet aussi de recommander du contenu qui a prouvé sa valeur sur une cible spécifique. Alors, c'est pas simplement lié au sales enablement, c'est aussi vrai dans l'email marketing avec Marketo, que Cécile connaît bien. C'est vrai sur pas mal de technologies, mais ça fait partie des leviers qui permettent de renforcer la conversion des leads. Avoir un contenu qui soit adapté à une cible et dont on connaît l'usage parce qu'il a déjà été prouvé.
Les clés d'une campagne de content réussie, Laura, c'est quoi?
Alors, moi déjà, c'est vrai que je préfère parler vraiment de stratégie de campagne de content, puisque pour moi, il faut vraiment envisager cette stratégie dans la globalité, et donc de penser à toute l'information qu'on va distiller auprès de notre cible, quel que soit le levier, puisque c'est ce qui va venir in fine contribuer à la transformation. Et la transformation, c'est bien qu'elle peut commencer sur les réseaux sociaux et finir via un emailing et vice-versa. Donc pour moi, pour réussir une campagne de contenu ou sa stratégie de contenu, il ne faut pas forcément, dans un premier temps, soucier du support, mais il faut vraiment avoir en tête ce qui va permettre de faire grandir la maturité du besoin de notre consommateur. Donc, c'est un peu du devoir de la marque de faire une sorte de pédagogie et d'accompagner la montée en compétence de son interlocuteur, quel que soit l'endroit où lui décidera d'aller consommer le contenu. Donc, pour donner un exemple un petit peu plus précis, très souvent, nous, on a comme question, lorsqu'on met en place des campagnes de sponsorisation, comment on doit travailler notre audience, comment on doit la segmenter, ou quel budget on doit mettre. Et c'est vrai qu'on aime bien repositionner ce type de question dans une question globale, qui est de dire quel est l'objectif que vous fixez en règle générale sur ce sujet avec votre internaute. Et ensuite, à partir de ce moment-là, quand on a bien déterminé ce sujet-là et qu'on est sûr qu'on a traité le sujet en amont, on va parler de la façon opérationnelle dont on va œuvrer et comment on va structurer des campagnes, on va dire, sponsorisées ou d'achat d'espace.
Alors moi, je rejoins complètement les points qui sont soulevés par Laura. Ouais. Chez nous, c'est clair qu'une campagne de content réussie, en fait, elle va, c'est celle qui va réussir à allier les deux éléments indissociables de toute campagne qui performe. C'est un, pour moi, c'est la pertinence déjà des contenus par rapport aux problématiques métiers et actuelles des prospects. C'est-à-dire, on a parlé de tunnels de conversion, etc. Donc, c'est envoyer le bon contenu au bon moment. Voilà. Et deuxièmement, c'est la pertinence aussi des canaux qui sont choisis parce que voilà, c'est vraiment le but, c'est adresser le bon message aux bonnes cibles au bon moment et sur les canaux qui sont les plus pertinents pour nos prospects.
Merci Cécile, je te propose de revenir dans un instant pour poursuivre cette émission Réussir sa stratégie de contenu en B2B, une émission qui est sponsorisée par les rencontres internationales du marketing et de la vente B2B qui auront lieu au château de Célie le 1er et 2 octobre prochain. reparti pour cette émission spéciale Réussir sa stratégie de contenu en B2B. Je vous le rappelle, je suis avec Laura Salin, cofondatrice et CEO de l'agence de Comment, Cécile Daragnès, qui est en charge de l'acquisition digitale chez Euler Hermès, et François Richlewski, qui lui est directeur EMEA pour Percolate. Je reprends avec toi, Cécile. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les étapes d'une stratégie de content en B2B?
Oui, alors effectivement, il y a plusieurs étapes. La première chose, on en a parlé, mais c'est super important, c'est vraiment de bien connaître ses cibles, ses prospects, et de construire en fait ce qu'on appelle ses buyer personas. Alors, pourquoi c'est important? Parce que c'est un travail qui va venir vraiment enrichir notre production de contenu. Le but ici, en fait, c'est qu'on va essayer en fait de déceler les pain points de nos prospects, leurs envies, leurs frustrations, quand ils sont en recherche de solutions pro. On va même aller jusqu'à savoir qu'est-ce qui les empêche de dormir la nuit. Voilà, on est quand même assez proche de l'analyse psychologique. Et comment on construit ça? En fait, on va aller carrément mener une étude terrain. Donc, on va solliciter le business parce qu'ils connaissent effectivement très bien leurs clients. On va aller faire des interviews de nos clients, mais aussi de nos prospects. Et il y a un point aussi là-dessus, c'est que souvent, on sollicite nos clients pour savoir pourquoi ils nous ont choisis, qu'est-ce qu'on leur apporte, etc. Il est aussi important, je pense, d'aller interroger nos anciens clients, les prospects qu'on a perdus, les clients qu'on a perdus, voilà. Parce que ça va nous permettre de retravailler sur nos failles et nos faiblesses, et on va pouvoir valoriser tout ça dans le content. Après, la deuxième étape, c'est construire son équipe content. Donc là, la première question, c'est est-ce que j'externalise ou est-ce que j'internalise la production de mon contenu? Et ensuite, un deuxième point, c'est cette équipe, en fait, c'est pas juste un content manager. Il faut fédérer, en fait, beaucoup d'experts autour de ce content manager. Donc, des experts SEO, des experts métiers, des spécialistes des réseaux sociaux, la communication, et puis les commerciaux, on l'a vu.
Avant que tu passes au troisième point, j'aimerais te poser une petite question.
Oui.
Entre internalisation et externalisation, quelle est la solution pour laquelle toi tu as opté et la solution préférée?
Alors, je n'ai pas vraiment de solution préférée. J'ai connu effectivement les deux cas. Les deux ont un avantage. Par exemple, j'ai travaillé pour une société où on avait internalisé, on avait carrément recruté en fait un journaliste pour être notre content manager. Et ça, c'était super parce que c'est vrai qu'il avait déjà une très belle plume et puis cette capacité en fait à vulgariser, à être très pédagogique dans ses contenus. Donc ça, c'était bien. Puis on a la maîtrise totale en fait du coup du contenu puisque la personne est immergée dans l'entreprise. Chez Euler Hermès, on a externalisé cette partie-là aussi. C'est intéressant aussi de faire appel à une agence parce que ils ont parfois beaucoup de clients, donc ils ont aussi des retours d'expérience d'autres clients, des bonnes pratiques aussi à nous apporter. Donc vraiment, il n'y a pas de recette. C'est vrai que c'est intéressant de pouvoir tester les deux. Voilà.
Et donc, je te laisse continuer parce que je t'ai arrêté. Le
troisième point, c'est l'alignement toujours entre les sales, le marketing, la communication sur les sujets à traiter, les angles d'attaque. Ensuite, il y a la partie, la production en elle-même du contenu. Il faut, sur la forme, privilégier différents formats et sur le fond aussi. Il faut faire, on l'a vu, des contenus qui sont adaptés à l'avancée des prospects dans leur cycle d'achat. Ensuite, il y a la diffusion et la réutilisation. Voilà, parce que le contenu, il n'est rien, en fait, sans un plan de diffusion bien travaillé en push et en pull. Voilà. Et enfin, la mesure parce que clairement, il va falloir prouver avec des KPI assez simples et lisibles l'apport du contenu dans la notoriété de l'entreprise, mais aussi en termes de business. Parce qu'effectivement, on n'est pas là pour faire joli, pour faire des contenus agréables. Il faut mesurer tout ça.
Je vais rebondir, Cécile, sur ton cinquième point, si je ne me trompe pas, c'est la diffusion et le reuse. Est-ce que vous faites appel à des ambassadeurs?
Alors oui, on en fait appel dans le sens où on a des ambassadeurs au niveau de nos clients. Donc on a des initiatives là-dessus où on essaye justement de capitaliser sur nos clients pour ce que sont les meilleurs pour parler de nous. Et ensuite sur la partie plus influenceurs. Là, effectivement, on a travaillé sur le sujet. Pour le moment, on n'a pas encore trouvé vraiment le bon angle, ou en tout cas les bons réseaux pour le moment. Au niveau de ces influenceurs, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. On a essayé de les chercher sur Twitter, sur d'autres réseaux, etc. Mais on n'a pas encore finalisé ce travail-là.
Ouais, c'est difficile de travailler avec peut-être des influenceurs, des ambassadeurs d'une marque s'ils n'incarnent pas cette marque. Et ça, c'est assez difficile en B2B.
Oui, c'est assez difficile, oui, effectivement.
Incarner et rester authentique.
Nous, notre côté, à contrario, c'est quelque chose qu'on travaille de plus en plus avec nos clients, justement, cette question de l'influence marketing en B2B. Alors, je suis d'accord avec Cécile, en fonction des secteurs d'activité, on ne va pas travailler de la même façon. Nous, par exemple, sur nos clients qui sont plus orientés sur les problématiques RH, notamment, c'est vrai qu'on accompagne, on les aide à travailler justement ces campagnes d'influence marketing. Pas comme on le ferait dans le B2C, bien entendu, un influenceur, ça va pas être l'instagrammeur qui va diffuser les produits de la marque, mais plus pour venir alimenter un débat ou venir alimenter des questions, donc intervenir directement sur les posts, sur des réseaux sociaux, par exemple, ça peut nous arriver de les interpeller et pour qu'ils viennent donner leur avis. Donc c'est vrai qu'on essaye bien sûr d'interpeller des influenceurs qui vont être en phase avec les valeurs de la marque, hein, bien entendu, mais pas d'une manière commerciale. Encore une fois, ça va être une manière d'apporter de la connaissance et d'aborder du débat sur l'aspect content stratégie de la marque.
Alors je vous propose de parler du rôle de la data maintenant. Quelle est l'importance de la data dans tous ces dispositifs, François?
La quantité de data dispo, elle est conséquente
pour analyser. En B2B aussi.
En B2B, tout autant qu'en B2C, bien évidemment. Analyser les comportements, les hits de campagne, les usages, tout ça, c'est hyper important. Ce qu'on constate, c'est que pour faire du content marketing qui soit efficace, disposer d'une vue à 360 de l'ensemble des données, tu dois te doter d'une solution content marketing qui dispose d'une couche d'analytique qui sera embarquée. Si tu dois aller chercher des informations sur la solution d'email marketing, sur ton site web, sur ta couche de SEO, etc., tu es obligé de collecter une masse d'informations qui est juste impossible. Donc, si tu as la possibilité de centraliser tout ça, c'est beaucoup plus intéressant. Les datas qui vont découler, l'analyse qui vont découler, ils sont là avant tout pour aider à réorienter une campagne, optimiser les choix d'un canal, perte de publication. Et d'un point de vue organisationnel, l'analyse de la donnée va permettre de comprendre combien de temps a été passé sur les différentes étapes de création d'une campagne. Est-ce qu'on constate un goulot d'étranglement, par exemple, dans la phase de production, d'approbation? On est capable de mesurer le temps qu'une agence a pris, donc le stand-by pour créer un visuel ou le service de création en interne, par exemple. Donc, on est capable de faire un crunch de toutes ces datas pour optimiser les différentes étapes de la stratégie de contenu depuis la création jusqu'à la diffusion et le choix des canaux.
Oui. Tu confirmes, toi, Laura, cette tendance, cette importance de la data
Oui, complètement. Ouais, je suis complètement d'accord avec François et on le voit de plus en plus dans la mesure où, initialement, c'est vrai que le content, la stratégie de contenu, c'était un petit peu le précaré de la communication. Aujourd'hui, c'est à la fois un sujet qui concerne à la fois la communication, le marketing, le service commercial. Donc vu que c'est un pilier assez central, c'est important que tout le monde puisse avoir une bonne vision de sa valeur et de son ROI. Et puis, comme on vient de te le dire, c'est vrai que la stratégie de contenu, c'est assez complexe. Donc, qui veut dire complexe dit aussi qu'il y a un coût. Donc, c'est d'autant plus important d'être en mesure de justifier finalement ces coûts d'investissement. Et nous, on parle beaucoup de ce qu'on appelle la valeur contributive de chaque contenu. Donc, c'est-à-dire qu'on essaye de mettre un point et un ROI derrière tous les contenus qu'on va produire par rapport au cycle de vente et à la génération lead in fine. Est-ce qu'on le voit bien, souvent, ce sont les contenus découvertes, hein, ce qu'on appelait les contenus awareness, donc de haute funnel, qui sont un peu coûteux parce qu'ils sont plus denses, parce qu'ils vont chercher plus d'informations qui ne sont pas détenues en interne. Et pourtant, ce sont ceux qui sont les moins bien identifiables sur du last click. Et donc ça, pour pouvoir justifier justement de continuer à produire ce type de contenu, c'est important, comme le disait François, d'avoir une bonne vision 360 sur à la fois l'ensemble qui est généré, mais aussi l'impact que ça va avoir derrière dans notre processus de vente.
D'accord. Mais dans une stratégie de contenu, alors, quels sont les canaux qui sont concernés, qui sont utilisés, François?
On va faire une distinction entre deux types de canaux, le owned et le paid. Le owned, ça veut dire, c'est tout le contenu qui est publié sur des supports qui sont propres à la marque. Donc, ça va être ton site web, tes blogs, ta solution d'email marketing. Le paid, ça va être les canaux extérieurs, la plupart du temps, les réseaux sociaux. Puisqu'une plateforme de content management se place en amont des canaux, on appelle ça... dans le jargon, une solution upstream, on va pouvoir imaginer gérer et diffuser le contenu sur tous les canaux disponibles sous la condition de pouvoir s'intégrer avec la plateforme, intégrer la plateforme avec les solutions présentes dans le système d'information. Il n'y a presque pas de limite à part la créativité. Pour donner un exemple, on travaille avec une marque de prêt-à-porter qui utilise la plateforme Percolette pour gérer la coordination et la mise en place de toutes ses affiches et de ses supports publicitaires pour 450 magasins à travers le monde. Donc, il faut mesurer, être capable de coordonner la production des supports en la calant sur les collections printemps, été, automne, hiver, selon les zones géographiques, la période des soldes, interagir avec les agences externes. Donc, tu vois, même le point de vente peut devenir finalement un des canaux que le content management est capable d'adresser.
Et en matière de KPI, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour justifier d'une content stratégie qui serait efficace, voire très efficace?
Mettre en place une plateforme de content marketing, ça a forcément un coût. Il y a un coût logiciel, il y a un coût de mise en œuvre, il y a un coût de formation des équipes. Ce qui est important, c'est de mettre ce coût-là en regard des bénéfices mesurables qu'une telle solution va apporter. Si on s'appuie sur ce que dit Forrester, par exemple, Forrester estime qu'une plateforme comme Percolette permet de réduire en moyenne de 3 heures par semaine et par personne le temps passé sur des tâches administratives simplement liées à la gestion du contenu. Ils disent aussi qu'une telle plateforme permet de réduire le coût annuel lié à la production de contenu de 10%. C'est énorme sur certaines marques qui sortent des centaines de campagnes par an. Ou encore de réduire de près de 70% les coûts de sous-traitance. Donc, c'est des indicateurs qui sont décisifs dans la mise en place d'une solution de content marketing. Et on est capable aujourd'hui de modéliser très finement les gains en regard du fonctionnement actuel d'une direction marketing. En fait, on a un modèle de modélisation qui prend en compte le nombre de campagnes, le coût moyen, la cadence, etc. Et avec tous les benchmarks des 650 clients qu'on peut avoir, on est capable de proposer, de démontrer le retour sur investissement avec des chiffres qui collent vraiment à la réalité et aux enjeux futurs de la société.
Quel est le timing et le niveau de difficulté pour prendre en main une plateforme comme celle-ci?
Ça va vraiment dépendre du niveau de maturité de l'entreprise et de la complexité même du déploiement. Si tu es sur un déploiement assez centralisé, le niveau de prise en main et le niveau de la montée en compétence est relativement rapide. La mise en œuvre de la solution est relativement rapide aussi. Si tu es sur une problématique de marque très décentralisée, multiculturelle, multilangue, multimarque, ça va être un petit peu plus compliqué. Je dirais qu'en moyenne, entre le moment où on démarre un projet et le moment où on est live avec une plateforme de content marketing, il faut entre 3 et 4 mois.
3 et 4 mois, oui. Ok. Allez, on va terminer. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Quelles sont les mauvaises pratiques à éviter, Laura? Les pièges?
Alors, c'est vrai que moi, les pièges sont dans lesquels il ne faut pas tomber. Je dirais, c'est maintenant, en amont, bien sûr, envisager la stratégie de contenu dans sa globalité et non pas en silo, parce que c'est vrai que c'est un des pièges qui arrive souvent. C'est de réfléchir sa stratégie de contenu par levier ou par support, et ce qui finalement a tendance à donner des incohérences lorsqu'on regarde la prise de parole de la marque au global. on comprend plus tellement ni la tonalité ni les finalités des contenus. Donc ça, c'est vrai que c'est très important d'avoir vraiment une réflexion au global lorsqu'on parle de stratégie de contenu. Un autre écueil qui arrive très souvent et souvent dans les demandes, c'est d'envisager que des contenus bas de funnel, donc que des contenus de transformation avec des argumentaires phares. Donc ces contenus, bien sûr, ils sont indispensables hein, pour finaliser le dispositif de lead gen, mais il faut aussi penser que, on parlait tout à l'heure, hein, qu'on est dans un système de nurturing, donc le prospect va avoir besoin d'être accompagné. Et si on lui communique que des contenus bas de funnel, finalement, ça l'aidera pas à montrer en compétence et à construire sa relation avec la marque. Idem pour les typologies de campagne, on va dire, hein, enfin les typologies de diffusion plutôt. Si on fait que de la campagne sponsorisée, eh ben on se retrouve finalement, alors parce que souvent c'était assez utile parce que ce sont des campagnes dont les résultats sont rapidement visibles, donc on peut avoir envie de céder à la tentation, mais c'est vrai que pour travailler son stratégie de contenu sur du long terme, c'est pas ce qui va être pertinent. C'est un peu, si je peux me permettre une comparaison, c'est comme de vouloir courir un marathon mais de s'entraîner qu'en faisant des sprints. C'est qu'au bout d'un moment, on va être un petit peu à court de souffle. Et dernier point, un autre des pièges sur lequel on a aussi tendance à tomber, c'est de vouloir même mettre tous ses œufs entre guillemets dans le même panier et de faire un énorme investissement dans un contenu qui, somme toute, est très pertinent. Hein, donc de faire un livre blanc énorme où on va faire intervenir beaucoup d'experts sur lequel on va investir beaucoup de budget de créa ou de recherche, etc. Et puis se retrouver en cours d'année et n'avoir que ça. Et de ne plus être en mesure de produire du contenu supplémentaire. Alors, heureusement pour ça, c'est vrai que nous, on accompagne beaucoup nos clients sur la partie, ce qu'on appelle le stacking de contenu, pour justement aider à démultiplier la vie de ces contenus qui sont très denses. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention de bien ventiler son budget et ses efforts.
Tu m'as retiré les mots de la bouche, j'allais te parler du snacking de contenu. Bah, tu vois, c'est la question que j'allais te poser. Tu y as répondu juste avant. Cécile, ton point de vue d'annonceur qui nous intéresse toujours autant.
Oui, ça va rejoindre un petit peu ce que disait Laura. Le premier point pour moi, c'est il ne faut pas sous-estimer l'étendue du projet. Un projet de content marketing, c'est du long terme. On a besoin de ressources, de logiciels, on en parlait aussi, et d'une forte implication humaine. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a un deuxième aussi écueil parfois, c'est même assez souvent finalement, on veut des résultats immédiats. Voilà, ça c'est un peu le mythe et la réalité du content marketing. Quoi. Alors oui, le content marketing, il a un bon ROI, mais il faut lui laisser du temps, un peu de temps pour montrer toute sa valeur, que ce soit en termes de notoriété et de génération de leads. Ensuite, un autre point, on en a parlé aussi un peu, c'est de parler uniquement de soi et de ses produits. Hein. Donc, vraiment, il faut faire en sorte de privilégier l'expertise et la valeur ajoutée de notre marque par rapport aux problématiques de nos prospects. Et ensuite, je vois des choses un petit peu plus concrètes. Hein. Il faut publier aussi régulièrement, c'est important. Il faut tenir en fait son calendrier éditorial parce que c'est vraiment la feuille de route de notre stratégie. C'est pas mal d'en faire d'avoir une feuille de route sur 6 à 12 mois. Également dans la rédaction des contenus, c'est bien de partir sur une cadence entre 2 à 4 contenus au moins par mois au démarrage et de tenir en fait dans la durée. C'est là toute la difficulté. Hein. Donc il faut anticiper, il faut préparer les temps forts de son activité. Donc ça demande de la planification. Ouais, et ce que disait Laura aussi, c'est une mauvaise pratique, c'est de ne pas faire de reuse parce qu'on l'a vu, hein, produire du contenu, ça a un coût. Donc voilà, il faut quand on crée du contenu, savoir le réutiliser, en faire du content snacking, etc. Donc ça aussi, c'est une nouvelle mécanique aussi et des nouvelles habitudes à mettre en place.
Oui, parce que c'est vrai que le snacking, c'est une chose qu'on voit de plus en plus, hein. Mais réutiliser les contenus, moi, je le vois très rarement. C'est-à-dire, je vois très rarement des retours, par exemple, sur un événement, des retours sur Success Stories, on le voit peu, en fait. Alors, c'est du contenu qui est déjà existant, qui permet de faire de grosses économies, mais surtout du contenu que nos propres clients, nos propres prospects n'ont peut-être pas vu.
Oui, clairement. C'est un bon exemple, un événement ou un webinaire, par exemple. C'est une bonne pratique aussi, justement, d'en faire un récap, un contenu d'expert, etc., qui pourrait être relayé sur différents canaux. Donc, c'est un bon exemple. Oui.
Allez, parce que je vous aime bien, j'ai deux autres questions. La première, à vous écouter, c'est trop nourrir son client, trop l'informer, trop le faire monter en compétence, c'est pas prendre le risque de l'envoyer chez la concurrence et de plus le maîtriser. Question piège.
Bah écoute, moi,
Ouais, vas-y,
je me
Laura.
jette à l'eau.
Ouais, vas-y, jette-toi à l'eau.
Je pense que bah, si on a peur de ça, c'est qu'on n'est pas sûr de son produit ou de son service, j'ai envie de te dire.
Ça,
Parce
c'est
que lorsque
l'excellente
maintenant on
réponse.
est sûr lorsqu'on est sûr de soi, c'est pas. Je vais faire une comparaison un peu grivoise, mais voilà, c'est comme si tu t'as peur que ton mari sorte en boîte, c'est que et qu'il te trompe, c'est que bah t'es pas sûr de ton couple, quoi. Donc non, faire monter le client en compétence, au contraire, c'est important, c'est ce qui va lui donner justement les clés pour bah pour discuter et pour justement choisir le bon prestataire au final.
Et je tends une perche à François parce que François va me dire bah, il faut un super outil qui permette de juger le niveau de maturité du client. C'est ça, François?
Non, oui, enfin,
Bon,
oui,
ouais.
tant mieux. Je peux laisser mon numéro de portable. Non, non. Il faut un outil parce que je pense que c'est très compliqué d'avoir une stratégie de contenu de bout en bout qui tienne uniquement par silo et qu'on adresse d'un côté sur le web et d'un côté sur les réseaux sociaux et d'un côté sur l'email marketing et d'un côté sur le blog. Si tu veux donner cette vue à 360 dont on parlait, tu es obligé d'avoir une plateforme qui quelque part centralise tout ça et qui orchestre tout ça. Mais avant tout, je pense que comme on a dit, ce qui est important aussi, c'est Cécile l'a mentionné, c'est d'avoir un calendrier éditorial, c'est d'avoir une feuille de route. Ce n'est pas de pousser trop de contenu sur une période donnée, c'est surtout de distiller le contenu en fonction des cibles, au bon moment, sur le bon canal et pour toucher la bonne personne. Ce n'est pas tant le manque de contenu qui va créer un problème, c'est plutôt de surexposer une cible avec du contenu qui, au bout d'un moment, va le saouler, va pas l'intéresser et finalement va même pas répondre à sa problématique. Connaître sa cible et pousser du contenu qui soit adapté, avec une plateforme évidemment, mais même sans plateforme, je pense que c'est le bon point de départ. Ouais.
Alors, la dernière question, quelle est la meilleure campagne de content que vous avez observée ces dernières semaines? Question piège. Ou pas d'ailleurs. Vous avez des campagnes en tête ou pas?
Moi, j'en ai une, ouais.
Ouais, vas-y, François.
C'est une campagne qui a été faite par un de nos clients en Angleterre qui s'appelle Vodafone et qui a été une campagne assez, on va dire, assez exemplaire dans le sens où elle avait un mix au niveau des canaux de distribution qui était assez bon. Il y avait à la fois du social, il y avait à la fois du LinkedIn et du Twitter. Au niveau social, il y avait à la fois des articles poussés sur site internet, il y avait à la fois l'usage d'une plateforme de marketing automation pour pousser un message en cette période un petit peu compliquée pour se rendre en boutique, surtout pour les professionnels, pour faire vivre un peu l'écosystème autour de Vodafone. Et tout ça était super bien orchestré et avec un contenu qui était décliné d'un canal par rapport à un autre. Donc, quand on parle de réutilisabilité, c'est exactement ça. C'était pas du copier-coller, mais c'était en termes de visuel, en termes de color coding, en termes de mots porteurs dans les messages. Il y avait cette réutilisation qui était faite et cette orchestration multicanal qui était pour moi assez exemplaire.
Écoutez, je vous remercie. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui sur le content, sur la stratégie, sur les outils à utiliser, puis les retours d'expérience aussi de Cécile. Donc, Laura, Cécile et François, je vous remercie à nouveau de votre participation.
Merci
Voilà.
merci à toi, Mohamed.
Merci.
Très sympa.
Et on se dit à très bientôt. Allez,
Merci.
salut.
À très vite.
Merci, au revoir.
Au revoir.